fait cette aventure des résidences en France et la multiplication de ce type de dispositif a une histoire précise, a fait l'objet de une volonté politique, une volonté concertée, beaucoup d'efforts, et ne s'est pas du tout fait comme on pourrait le penser, comme à l'heure actuelle les choses se développent de façon simple. Il y a eu énormément d'opposition. Ce qui est intéressant dans le fait de retracer en fait cet historique, c'est de retrouver au fond les obstacles, parce que quelque part je pense qu'ils peuvent éclairer les difficultés que l'on rencontre à l'heure actuelle, difficultés qui sont étranges, puisque la difficulté à l'heure actuelle ne consiste pas à monter des résidences. Je crois qu'il y a une fascination, en particulier des bailleurs de fonds, pour le terme même de résidence. C'est-à-dire qu'on sait que les uns et les autres, quand l'on parle de résidence, on a plus facilement de budget, pour être clair. Il y a quelque chose qui fonctionne ainsi. Donc ce n'est pas là, selon moi, qu'est la difficulté. La difficulté, c'est de nous donner beaucoup de mal, d'avoir des ambitions, d'être très attentif à la fois à servir des artistes et à s'occuper des publics, et puis de se rendre compte finalement que ça dérape à certains moments, que c'est pas du tout ça, qu'on fait quelque chose de très finalisé, qu'on appauvrit, qu'on se retrouve avec des artistes qui font le tour des résidences et dont le boulot s'appauvrit au fur et à mesure des résidences, etc., etc. Alors je ne voudrais pas, là, vous attrister, je ne voudrais pas présenter un tableau trop sombre, parce qu'il y a également des expériences extrêmement intéressantes, courageuses, mais je pense que c'est sur cette question de la réflexion et d'une... sur la méthodologie, sur la manière dont nous nous engageons, que peut-être revenir aux sources peut aider. Alors, j'ai lu ça en passant là rapidement, mais c'est souvent évoqué, la Villa Médicis comme le modèle des résidences d'artistes. Alors, il faut reconnaître que quand nous commençons ces résidences d'artistes en 1985, mais on y travaille donc depuis 1984, il n'y a pas de résidence d'artistes. Ça, c'est impensable pour les générations là, qui n'ont pas connu cette époque. C'est impensable. Il y a pas, ça n'existe pas en France. C'est-à-dire que c'est un terme qui n'existe qu'en anglais, et c'est « artist in residence ». Qui existe depuis longtemps aux États-Unis, notamment dans les universités, mais en France, ça n'existe pas. Donc, une seule expérience a un passé long et glorieux, c'est l'expérience de la Villa Médicis. Et donc, encore actuellement, on tient cette expérience comme un peu le modèle des résidences d'artistes, ou du moins un exemple initial. Et en effet, je crois que ce qui est important dans la résidence, c'est l'idée de période sabbatique, ce que l'on retrouve, ce qui est au cœur de l'expérience de la Villa Médicis. Mais en réalité, l'émergence des résidences telles que nous les connaissons maintenant ne peut absolument pas s'inscrire dans cette continuité pour une raison. C'est que la Villa Médicis, traditionnellement, ce n'est plus tout à fait le cas maintenant, mais traditionnellement, ne s'intéressait pas au public. Or, introduire, et ce fut ça la grande expérience qui a été lancée en 84-85, c'est introduire la préoccupation des publics ou des structures, c'est-à-dire comment on fait pour que un artiste étant présent, pour que on proposant une période sabbatique qui puisse être tout à fait fécondante pour l'artiste, comment on fait pour qu'également Ainsi, des publics puissent mieux approcher l'art. Puissent acquérir une familiarité avec les œuvres, bref, puissent bénéficier au fond de cette présence. Et là, ce dont nous nous sommes rendus compte, c'est qu'il y avait là, au cœur même de cette double préoccupation, une contradiction insurmontable, et qu'au fond, les résidences d'artistes étaient des situations paradoxales. Cette aventure, donc, était bien différente de ce qui se passait à la Villa Médicis. Je vais maintenant revenir sur la manière dont elle s'est développée. En fait, la première annonce de ces résidences... Donc là, je vais faire un point historique. Et puis nous essaierons, en fin de mon intervention, de voir un petit peu comment... Sur le plan des modalités, du coup, nous avons réfléchi les choses. Ce qui annonçait ces résidences est la phrase suivante. Le principe de 6 implantations d'une durée d'un an d'artistes plasticiens résidant au milieu scolaire, collège, LEP, lycée technique est retenu. Ce lancement des résidences figure dans la convention pour le développement de l'action culturelle en milieu scolaire en Île-de-France, qui est signée en septembre 1985. En annexe à cette convention, 5 pages sont portées qui précisent la manière dont on envisage, à cette époque-là, de lancer ce type de dispositif. Et il s'agit donc du programme « Entrer les artistes » de Savoir au présent qui conduire au développement actuel des résidences, y compris dans d'autres disciplines. Cette introduction répond en fait à un certain nombre de priorités de la politique culturelle de l'époque. L'attachement, la préoccupation qu'avait la gauche arrivant au pouvoir en 81 de réaliser une vraie démocratisation culturelle. Il y avait sur ce plan une tentative qui s'appuyait sur une très forte critique sur ce qui s'était passé jusque-là. Une préoccupation tout aussi forte de soutien aux artistes. Et enfin, une réflexion sur la question de ce qu'on appelait à l'époque l'ouverture de l'école. Ouverture qui était pensée tant au point de vue concret qu'au point de vue symbolique. Faire rentrer le monde dans l'école, comme faire sortir l'école de ses murs. Et en parallèle, existait également une préoccupation très très grande par rapport à l'économie. Ça, c'est une des grandes. Un point sur lequel on n'attendait pas du tout Jacques Lang, mais qui voulait absolument contribuer, au même titre que tout autre ministère, à la lutte qui était absolument première, primordiale à l'époque, contre le chômage. Et il voulait absolument intervenir sur des programmes culturels, y compris dans les entreprises, pour contribuer, pour que la culture contribue à cette lutte contre le chômage, et à une autre réflexion sur la vie professionnelle et sur l'évolution de cette vie de cette vie professionnelle. Alors prenons d'abord la question de la démocratisation culturelle, n'est-ce pas ? On parlait d'élargir le cercle des initiés. Dominique Vallon, en inaugurant la Maison de la Culture du Havre, c'est-à-dire en fait le volcan, hein, qui n'était pas la première Maison de la Culture du Havre, mais qui était la transformation d'une première maison par la construction du volcan, bien plus tardive, en 81 en l'occurrence, et qui disait « Nous avons la volonté d'enrichir les pratiques culturelles de toutes les couches de la population et prioritairement de tous ceux qui sont exclus de l'essentiel de la vie culturelle. » Et pour ce faire, La question était donc de pouvoir, dans tout milieu, des collectivités locales, des entreprises, auprès de divers publics, de la société tout entière, là je cite, n'est-ce pas, pouvoir développer des programmes culturels. Et pour réaliser cette visée, Dominique Vallon invente donc l'idée de conventions de développement culturel. Bon, des antécédents existaient, mais pas sous cette forme. Ça ne s'appelait pas les conventions de développement culturel. Et il y a, à ce moment-là, une signature, tous azimuts, de conventions de développement culturel. Tout ça, ce sont des choses, maintenant, qui sont complètement dans les mœurs. Mais à l'époque, c'était des inventions. Enfin, c'était, enfin, il y avait déjà des signatures de ce type d'accord pour susciter, soutenir des dynamiques culturelles. Mais là, ça a été très systématique, et puis cette idée de convention de développement culturel était mise au point par la délégation, la direction du développement culturel. C'était d'ailleurs une des missions centrales de cette nouvelle direction au sein du ministère de la Culture. Donc on a des premières conventions signées en 1982 avec les villes, ces premières instances qui vont rentrer dans l'histoire, et puis ensuite avec le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Justice, le ministère de la Santé, le ministère de la Recherche, vous voyez, et des entreprises. Et à ce titre, les conventions avec des comités entreprises, c'était l'entrée comité entreprise pour les conventions, se signent en 83 et en 84, et on a un grand colloque au Havre, encore en 1985, pour rendre compte de cette relation avec les entreprises. Et c'est donc dans cette dynamique qu'intervient la convention, le protocole d'accord entre le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale le 25 avril 83. Mais une fois que les instances centrales ont réfléchi à la manière dont ils pourraient travailler ensemble, et consiste à créer des instances communes de concertation, à développer les budgets, c'est par ce protocole d'accord, à un certain moment, pendant une certaine période, on a réussi, par exemple, à équilibrer les budgets qui étaient apportés par l'Éducation nationale et par la culture pour les actions communes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'était hallucinant, et ça s'est très rapidement d'ailleurs interrompu. N'est-ce pas ? Il y a eu très vite de nouveaux retours à la case départ, c'est-à-dire où il y avait un petit peu d'argent de l'Éducation nationale et beaucoup d'argent de la culture. Et puis en même temps, des formations vis-à-vis, donc systématiser les formations vis-à-vis des professeurs, etc. etc. Voilà. Bon, je ne rentre pas dans tout ça, c'est pour vous montrer un petit peu la dynamique. Eh bien, une fois que ce protocole était signé, il fallait des applications de ce protocole. Et cette convention dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est celle de l'Île-de-France en 1985, est la première concrétisation de ce protocole d'accord sur le terrain. Convention qui est signée entre la Direction régionale des affaires culturelles et les trois rectorats de Paris, Versailles et Créteil, dans laquelle on commence déjà à parler des ateliers et d'un certain nombre de dispositifs de ce type, les jumelages, je crois, déjà, et notamment les résidences d'artistes, entrées des artistes, telles que je les ai évoquées tout à l'heure. Elles font partie du troisième volet de cette convention, qui est réservé au développement des langages artistiques, et elles bénéficient à l'époque d'un budget de 52 000, 53 000 euros, je transformais ça en euros, voilà, sur les 45 000 que comportait cette partie des développements des langages artistiques. On est donc là, initialement, dans cette histoire de résidence, dans l'idée très forte qu'on va se rapprocher des publics, qu'on va faire intrusion dans des lieux autres que simplement les musées, les lieux dédiés depuis la création du ministère à l'art, plus particulier, enfin à l'art. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est au fond ça, cette forte ce fort mouvement qui va en réalité beaucoup nous compliquer la vie, mais bien sûr qui assure tout le caractère intéressant et fécond de ces résidences d'artistes. Deuxième préoccupation du gouvernement à l'époque, c'est le soutien aux artistes plasticiens. Et il n'est pas indifférent de constater que ces résidences d'artistes, ça commence avec les plasticiens. Alors l'idée dès l'origine est de l'ouvrir aux autres disciplines, mais pour autant, ce sont les arts plastiques qui font office un peu de laboratoire, si vous voulez, pour ce type de choses. Ce qui là aussi est extrêmement intéressant parce que c'est certainement, enfin avec la danse, les arts plastiques sont des disciplines, je dirais, un peu empêtrées avec le langage verbal et donc avec la communication, d'une part, à la différence des gens de théâtre qui sont toujours extrêmement habiles, n'est-ce pas, dans la prise de parole. Ça, c'est toujours très, très étonnant dans les colloques de constater les différences. Et puis la deuxième chose, c'est que contrairement aux compagnies, que ce soit théâtre ou danse, par exemple, le plasticien, il est tout seul. Il est tout seul dans son atelier, il a besoin de secrets, il a besoin d'isolement. Et si on pompe son énergie sur de l'animation, sur de la communication, ce qui en plus c'est mal fait, souvent, pas dans tous les cas, mais souvent, eh bien, au profit donc de la démocratisation culturelle dont nous venons de parler, eh bien cette énergie pompée, elle n'est pas mise dans le travail, dans la recherche, dans l'intensité, dans que requiert la création. Et donc en fait on se retrouvait, alors là je dois vous dire par hasard, parce que c'était pas du tout à l'époque déterminé, mais on se retrouvait dans la situation la pire. C'est-à-dire qu'on aurait eu des gens de théâtre pour commencer les résidences d'artistes, c'était beaucoup plus simple. On avait des tchatcheurs d'une part, et deuxièmement on avait des gens qui étaient plusieurs. Donc il y en avait toujours un qui pouvait aller faire la com, le metteur en scène, lui, n'apparaissant qu'à certains moments. Ce qui s'est d'ailleurs passé pour les résidences d'artistes ensuite de compagnie théâtrale. Pour le plasticien, il n'en était pas question. Si, encore une fois, on distrayait son énergie sur la com, eh ben, il ne le mettait pas ailleurs. Il se trouve par ailleurs que, à cette époque-là, en fait, il n'y avait pas 1981... Il n'y a pas, ou très très peu, enfin je vais vous en citer quelques-uns, de lieux, d'espaces susceptibles d'accueillir correctement des œuvres contemporaines. Il y a le Centre Pompidou, qui est ouvert depuis peu. Il y a la rue Berryer, qui est à Paris, la Fondation Rothschild, où avant l'ouverture du centre, nous nous retrouvions avec quelques centaines de personnes à parler d'art contemporain, mais c'était vraiment très confidentiel. Et puis, il y a quelques musées de Grenoble, par exemple, parce qu'il y a Toulon assez vite aussi, parce que quelques éléments comme ça, mais qui n'étaient absolument pas les politiques de ces musées, mais c'était lié à des personnalités qui voulaient traiter de l'art contemporain. Mais la DMF, qui est l'instance s'occupant naturellement de l'art contemporain, puisqu'on considère cet art contemporain comme les œuvres contemporaines s'inscrivant dans la continuité, dans la grande tradition, bien sûr, de la peinture et de la sculpture. Là-dessus, il n'y a pas de ce qui est tout à fait normal. Eh bien, la DMF est tout à fait impropre à traiter dans ces espaces l'art contemporain. Je me rappelle par exemple qu'on disait mais comment est-ce qu'on va faire repeindre une salle par un musée pour exposer une œuvre qui requiert justement une installation ou une œuvre conceptuelle qui requiert d'avoir des murs absolument blancs. Comment est-ce qu'on va faire dessiner, peindre sur un mur directement, sur le mur directement telle œuvre, parce que pour Sol-Lewitt il faut faire telle ou telle chose. Comment est-ce que etc. Enfin, tout était, et donc ça faisait l'objet, si vous voulez, de fiches administratives pour obtenir l'autorisation de peindre. Donc il n'y avait pas de lieu. Deuxième chose, c'est qu'il n'y avait pas de modalité spécifique de soutien des artistes. C'est-à-dire qu'il y avait les commandes publiques, Malraux avait en effet fait des commandes, passé des commandes à des artistes contemporains, n'est-ce pas? C'est le certains plafonds, etc. Enfin. Mais il n'y avait pas de bourse. Il y avait la Villa de la Médicis pour les élus du prix de Rome, mais il n'y avait pas tout cet type de proposition, toute cette diversité de propositions. Et donc, on se trouve très très rapidement. Claude Mollard et Michel Troche se mettent au boulot. Donc Claude Mollard vont donc, le ministre va créer d'une part une direction particulière pour les arts plastiques contemporains, c'est-à-dire la délégation aux arts plastiques, et puis son bras, je dirais, séculier, un peu à l'instar de la DMF et de la RMN, hein, c'est-à-dire une instance qui peut être beaucoup plus souple par rapport aux règlements de l'État, enfin tout ce qui est conduite administrative, qui est le Centre National des Arts Plastiques. Ça, c'était déjà un énorme apport, et ça, les deux sont créés les 15 et 17 octobre 1982. Et en même temps, sont élaborées, à marche forcée, 72 mesures qui sont annoncées vraiment en grande pour la création artistique. Et dans cette 72 mesures, eh bien, on trouve notamment tous les ensembles de bourses, bourses d'aide à la création, bourses d'aide à l'installation, bourses d'aide à la première exposition, bourses d'aide à la publication de catalogues, bourses d'aide bourses de recherche, etc., etc. Alors, à la fois nationales et puis dans chaque DRAC, hein, avec des budgets différents. Et puis, la création des FRAC, qui sont donc initialement des collections sans lieu, puisqu'il s'agit en fait de permettre que des œuvres puissent être présentes dans toute la France et dans tout type de lieu, donc des collections sans lieu, donc juste avec des réserves, et les centres d'art, qui sont exactement le contraire, des lieux sans collection. Voilà le... Mais... Dans l'ensemble de ces dispositifs, une préoccupation majeure, principale, existe, qui est celle de l'atelier de l'artiste. L'une des préoccupations essentielles est relative à l'outil de travail du plasticien, à savoir son atelier. C'est considéré comme essentiel au point que ce sont les premières lignes de la lettre d'information. Vous savez, la lettre d'information, c'est la lettre du ministère régulière qui annonce l'actualité des décisions et des. Donc, les premières lignes, la lettre d'information du ministère d'octobre 82, annonçant ces 72 mesures, sont consacrées à ce point. Dans ce domaine, les arts plastiques, comme dans les autres secteurs de la création, la priorité va à la création. Favoriser la création, c'est d'abord reconnaître la liberté des créateurs, leur indépendance économique et sociale, le droit pour chaque artiste de disposer d'un outil de travail. C'est pourquoi, au cours des prochaines années, je continue à lire la citation, il est prévu d'accroître considérablement le nombre d'ateliers d'artistes à Paris et dans toutes les villes de France. Et cette ambition est rappelée lorsque est poursuivi, rappelé à tout moment, notamment dans une nouvelle publication du ministère, où est réaffirmé, premier outil de l'artiste, l'atelier, dont l'accroissement est un objectif prioritaire du ministère de la Culture. Alors, en fait, dans un premier temps, le ministère veille à pratiquement... faire des pressions. Je ne sais pas si des éléments, je ne me rappelle plus si des éléments, enfin, s'il y a des décisions administratives, mais en tous les cas, veille à ce que les programmes de construction, des constructions à loyer mobile, d'habitation à HLM, à habitation à loyer modéré, comportent obligatoirement un, deux ou trois, un certain pourcentage d'ateliers pour les artistes, et à l'époque, énormément d'artistes. D'ailleurs, il y a, à cette époque-là, pendant une période assez courte, mais enfin à cette époque-là, les artistes, présentent un dossier et lorsqu'ils sont élus parce que leur boulot est considéré comme intéressant, ils bénéficient assez facilement de ces ateliers. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux sont toujours dans leurs ateliers créés à cette époque. De la même manière, donc, on met au point cette histoire de aide à l'installation des ateliers. Hein, ce sont des financements pour ceux qui pourraient avoir des espaces, mais pas très à aménager, et qui puissent leur servir d'atelier d'artiste. Mais très très rapidement, on se rend compte qu'on ne fournira pas la demande, c'est-à-dire qu'il y a une telle demande. Et donc très vite, ces initiatives s'essoufflent, et on se rend compte qu'on ne pourra pas donner un atelier à chaque artiste. C'est là qu'interviennent les résidences d'artistes. Et l'idée de démarrage, c'est... Alors là, je cite Jean Adair, qui était à l'époque chargé de l'éducation artistique à la direction du développement culturel du ministère de la Culture. Donc c'était vraiment la personne qui s'occupait de toutes les incidences de ce protocole d'accord, etc. Nous n'avons pas assez d'ateliers pour les artistes. Des espaces sont disponibles dans les établissements scolaires et dans les entreprises, installons les ateliers des artistes plasticiens dans les lycées, les collèges et dans les entreprises. Voilà comment les choses démarrent. Donc on est bien très clairement du côté du soutien aux artistes et du côté également de l'atelier. C'est là que les choses sont compliquées, car l'atelier, c'est deux choses. La proposition qui est faite, elle est à la fois d'ordre pratique, c'est-à-dire on va apporter des ateliers pour que les artistes puissent travailler. Mais l'atelier, c'est aussi un espace symbolique. C'est un espace dans lequel l'artiste travaille, qui a besoin de secret, qui se détache au fond, qui crée une sorte de paroi avec le monde, n'est-ce pas ? L'atelier renvoie à une stricte délimitation du point de vue symbolique entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'intime et le public, entre la concentration et la démonstration. Et donc, ces deux éléments mis côte à côte, ces deux motivations, conduisent à cette situation paradoxale dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, je voudrais encore dire quelques mots sur, d'un côté, l'école, et puis de l'autre côté, les entreprises. Est-ce qu'en effet, qu'est-ce qui se passe dans ces structures pour qu'elles acceptent d'intégrer des artistes, ce qui est extrêmement perturbant pour elles? Alors donc, je vous ai parlé tout à l'heure de cette ouverture de l'école qui était un peu un leitmotiv. C'est-à-dire, je me rappelle l'idée des murs, c'est-à-dire qu'on disait il faut faire tomber les murs. Depuis, on sait l'importance de et ce que déclenche le fait de faire tomber les murs. Donc en fait, il y avait d'un côté déjà des expériences qui étaient menées dans l'école, avec, à la suite des travaux de la mission Luc, dans les années 70, qui avait introduit ce qu'on appelait les pactes, d'abord, puis ensuite les PAE. Là, je dis des termes, je pense que certains d'entre vous identifient. Mais cette relation, ces programmes culturels, en fait, étaient basés sur l'idée qu'il y avait des collaborations entre des profs et des gens du milieu culturel. Alors que là, la question était tout autre. La question, c'était d'intervenir structurellement dans un établissement scolaire. C'est-à-dire, introduire un atelier d'artiste dans un établissement scolaire, c'est un geste extrêmement fort, c'est un geste violent. Établir une collaboration, un projet commun, ce qui était le cas des PAE avec le milieu culturel, ça, c'est, vous voyez, ça va dans le sens, dans la continuité de la mission, de la fonction des enseignants. Eh bien, nous en étions là et c'était possible. C'est-à-dire qu'il y avait, par cette idée d'ouvrir l'école, cette aspiration de certains, car c'était loin d'être l'ensemble du milieu scolaire, mais à en effet imaginer que une des solutions, c'était de faire rentrer le monde à l'intérieur de l'établissement scolaire. D'un autre côté, il y avait le travail théorique qui était mené pour la didactique des arts plastiques, qui est un travail de très très grande qualité, qui a été conduit par sous l'égide de Gilbert Pélissier, et par Gilbert Pélissier, qui a été l'inspecteur général, qui est maintenant à la retraite, mais qui a fait des propositions extraordinaires, et dans lequel, je ne vais pas revenir sur l'ensemble de cette didactique, c'est extrêmement intéressant, mais c'est complexe, mais il y avait un point qui, pour les résidences d'artistes, était très important, c'est que lui avait introduit, après une première phase des années 70, où, au fond, l'idée était plutôt un peu l'interactif, n'est-ce pas ? Lui avait introduit l'idée que cette discipline, à l'instar des autres disciplines, avait un champ de référence. N'est-ce pas ? Comme l'histoire, c'est la recherche en histoire, la physique, c'est la recherche fondamentale en physique. Et il avait introduit l'idée que le champ de référence de cette discipline, c'était l'art contemporain. Ce qui est une idée absolument, que moi je trouve absolument géniale, pour différentes raisons. Et au fond, l'introduction de artistes dans l'école permettait d'avoir sous la main le champ de référence. Parce que comment faire autrement? Ça ne se publie pas. C'est une œuvre d'art, il faut être confronté à l'œuvre. La démarche, il faut la vivre. Contrairement aux autres champs, c'est-à-dire qu'une recherche fondamentale en physique théorique, on peut lire les résultats, etc. Vous voyez, donc là, il y avait une pensée sur l'idée d'associer au sein de l'établissement le champ de référence de cette discipline, ce qui était évidemment extrêmement intéressant et qui a beaucoup nourri la réflexion que nous avions sur les résidences d'artistes au sein des établissements scolaires. Au sein de l'entreprise, c'était la question, enfin, on commençait à s'interroger sur la place de la culture d'entreprise. Bon, vous savez qu'après, il y a eu un bouquin qui s'est appelé « Le prix de l'excellence » et qui, en effet, à l'issue, qui était un bouquin d'Américain, mais qui a été traduit en français, et qui, en fait, à l'issue d'un certain nombre d'études, avait identifié le point suivant, c'est que les entreprises les plus dynamiques économiquement étaient celles qui avaient la culture d'entreprise la plus forte et la plus nourrie, si vous voulez, la plus suivie par l'ensemble des personnes au sein de l'entreprise. Et donc évidemment, c'était pain béni pour l'idée qu'on pouvait ainsi intervenir dans l'entreprise en participant d'une dynamique et d'une fécondation de cette culture d'entreprise. Et ceci par le fait de développer des programmes culturels qui pouvaient jouer soit sur les ressources humaines, c'est-à-dire le développement au sein, par les personnes elles-mêmes, d'un certain nombre de curiosités, d'agilités, de découvertes, qu'il était possible un peu de dépasser les limites, d'intervenir sur un autre regard sur les produits de l'entreprise, qui participait aussi de la culture d'entreprise, pas d'intervenir au sens où d'intervenir volontairement, mais en cohabitant, c'est-à-dire en introduisant une présence qui utilisait les produits d'une autre manière, pas forcément dans le sens des découvertes pouvaient être possibles, et une autre manière d'envisager le produit, et de la même manière pour les process, c'est-à-dire la manière de travailler. Ce qui en fait s'est produit dans les résidences artistes, par exemple, que nous avions nous menées à l'époque dans les entreprises. Plus, alors, le tout, alors, qui est un autre versant dans l'entreprise, qui est les comités d'entreprise, où là, il y avait déjà une longue tradition, n'est-ce pas, avec tout ce lancement des bibliothèques de comités d'entreprise, ça c'était le passé, mais qui continuait, et qui continue d'ailleurs encore à l'heure actuelle, c'est la partie principale, et maintenant, ce n'est presque souvent, ce n'est la seule partie d'ailleurs, mis à part les voyages de vacances, et choses comme ça, mais... Mais à l'époque, il y a eu énormément d'actions très très courageuses avec des artistes de grands talents, dont par exemple quelque chose comme la CCAS, qui est le comité d'entreprise de l'EDF, continue à mener, mais ils sont très très rares ceux qui continuent un travail très exigeant de ce côté-là. Et donc, en établissant des partenariats, d'où l'objet des conventions qui se signaient entre le ministère et des comités d'entreprise. L'objet ainsi était d'amplifier, là aussi, de féconder ce travail qu'il faisait par des éléments qui étaient véritablement exigeants sur la qualité artistique, ce qui n'était pas toujours le cas jusque-là. Et c'est à l'intérieur de ça que se sont intégrées, lorsque c'était dans les comités d'entreprise, certaines résidences d'artistes. Voilà. Donc en fait, ce démarrage, comme vous le voyez, répond à cette préoccupation liée à la démocratisation culturelle, à cette très très forte préoccupation liée à l'apport d'ateliers, avec une conscience forte qu'il fallait vraiment soutenir les artistes, leur apporter des budgets, des financements et les aider concrètement, ce qui était une idée vraiment tout à fait nouvelle. Enfin, jusqu'alors, ça n'avait pas été pensé jusqu'à ce point. Ça a été permis parce que on était au moment où la réflexion tournait autour de l'idée d'ouverture de l'école, non plus seulement par des projets communs, mais de manière structurelle au sein même des établissements scolaires, et enfin pour les entreprises, avec l'idée de féconder, de dynamiser, d'amplifier la densité, la force de la culture d'entreprise. Alors à partir de là, de ces premières résidences, en fait, il s'est agi d'un véritable parcours du combattant. La force, une densité, une impulsion était donnée. Nous avions, dès 1985, mené 6 premières résidences d'artistes en Île-de-France. Mais comment, à partir de ces 6 expériences, ces premières expériences, on en arrive à une situation où les résidences d'artistes, ça devient enfin, ce que c'est actuellement, c'est-à-dire ça se développe absolument avec de très très nombreuses collectivités territoriales. Comment ça s'est étendu aux autres disciplines, comment c'est devenu presque un nom commun dans le langage des politiques culturelles. Enfin, ceci était loin d'être gagné avec nos 6 premières résidences. Alors en fait, ça a été dû à un certain nombre de choses. Ça a été dû d'une part à la dynamique du programme entre les artistes lui-même, qui, peu à peu, a pu se déployer, se développer, et donc a créé une sorte de fer de lance qui pouvait ensuite être suivi. Ça a été dû également à une réflexion sur la manière dont on pouvait transmettre ce type d'expérience, ce qui a été assez compliqué. Et ça a été dû à la réflexion théorique que nous avons menée et qui nous a conduit à penser la méthodologie d'une manière appropriée. Bon, j'aurai plein de choses à vous raconter sur tout ça. Je vais essayer d'être plus rapide là parce que je ne voudrais pas, d'une part, vous lasser. Et par ailleurs, sans doute aurez-vous des questions à me poser. Donc je vais peut-être être un peu plus lapidaire. Je voulais, dans un premier temps, vraiment bien vous dessiner le contexte pour que vous compreniez que ça n'allait absolument pas de soi. Je dois vous dire que la suite n'a pas non plus du tout été de soi. Pour commencer, les artistes. Alors, les artistes ne voulaient absolument pas y aller. C'est-à-dire que, pour eux, aller dans les établissements scolaires ou aller dans les entreprises, mais dans les établissements scolaires en particulier, c'était forcément être impliqué dans de l'animation. Or, notre ambition n'était pas du tout de travailler avec des artistes qui auraient fait volontiers, peu importe, des animations, mais de travailler avec ceux, les artistes, qui étaient les plus exigeants, ceux dont le travail était vraiment les plus aigus sur les problématiques contemporaines. Et si l'on se rapporte à 81, on sortait juste des années 70, c'est-à-dire c'était les artistes conceptuels, enfin c'était ceux qui étaient les plus durs à cuire, enfin les conceptuels, support surface, etc. Il n'y avait même pas encore la figuration narrative qui ensuite a apporté quelques facilitations par leur bagou et leur espèce de côté très bavard et tout ça. Là, c'était vraiment dur. Et c'était avec cela qu'on voulait faire des résidences d'artistes. S'il s'agissait simplement de blablater autour de l'art, n'est-ce pas, c'était pas ça. Et donc, ces artistes-là, ils voulaient surtout pas retourner à l'école. Être considéré comme animateur, c'était niette, niette, niette. Et donc, j'en ai vu 50. 50 qui m'ont refusé. Il se trouve que j'avais, moi, un passé au Centre Pompidou, d'une part, et j'avais fait des émissions pour la télévision, un Tour de France qui avait eu beaucoup d'écho autour de l'art contemporain. Donc j'avais une véritable... Et je leur ai... J'ai fini par en prendre 6, et je leur ai promis, juré, que jamais ils feraient d'animation, ce qui était mon... Et ils sont allés vraiment mais de cette manière. Donc c'était très compliqué. Deuxièmement, l'école. Alors en effet, au niveau central et ministériel, des directions centrales, et puis au niveau, déjà, par exemple, Jean Ader était mis à disposition, déjà. Ça, c'était très nouveau aussi. Les gens qui, de l'éducation nationale, continuaient à avoir leur salaire, mais étaient mis à disposition dans le ministère de la Culture. Eux devenaient des transfuges, d'une certaine manière, je dis ça avec beaucoup d'affection, parce que... Il prenait le parti, en effet, comprenait et prônait cette histoire de l'ouverture de l'école. Mais au sein de l'école proprement dite, c'était loin d'être le cas. Et il y avait 3 difficultés qui étaient soulevées. La première, c'est, on va recevoir un artiste, mais quelle place peut avoir cet artiste, dans tous les sens du terme, hein? Parce que, évidemment, l'idée qu'il y avait des espaces dans les établissements scolaires était une idée archi-fausse. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un seul espace dans les établissements scolaires. Ou plutôt, quand il y en avait, ils étaient occupés, et les gens qui occupaient ces espaces étaient très jaloux du fait qu'ils les occupaient. Donc ça, c'était déjà idée fausse. Donc, il fallait faire vider un espace, je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour que l'artiste puisse installer de son atelier. Parce qu'autrement, il n'y avait pas d'atelier. Si c'était un espace où il pouvait venir poser ses paquets de temps en temps et puis repartir, c'était pas un espace que pouvait habiter l'artiste. Et donc, au sein des établissements scolaires, trouver des espaces, c'était pas simple. Et comme vous le comprenez, en fait, là aussi, l'accord, quand il était donné, c'était un accord symbolique. En fait, c'était symbolique. C'est-à-dire, on était prêt à accueillir un artiste. Donc, il était de la plus grande importance, on s'était rendu compte de ça, de négocier pied à pied jusqu'à ce qu'un lieu soit dégagé pour accueillir un artiste, de manière à ce que, je dirais, les cœurs soient prêts à accueillir un artiste. N'est-ce pas? Vous voyez, très vite, on a compris que c'était ça qui se jouait, en fait. Donc, quelle place pour l'artiste? Dans un milieu... Alors, je reprends certaines... Dans un milieu, certaines réflexions qui avaient été ensuite... où chacun a sa... publié. Où chacun a sa place, un rôle, un statut bien défini. Que penser d'un artiste dont on précise, car pour nous c'était extrêmement important, qu'il est là dans un local que l'établissement met à sa disposition pendant un an pour poursuivre sa démarche essentiellement. Car, de la même manière, on avait absolument imposé qu'il n'y ait pas de projet. Alors là, c'était impensable. Le PAE qui permettait donc aux établissements, aux profs, d'avoir un petit peu d'argent pour développer des projets communs, projets culturels, en fait, tenait au projet. C'est-à-dire que le projet, c'était devenu un élément symbolique. Sans projet, tout vacillait. Or, que faisions-nous s'il y avait un projet avec les artistes? Eh bien, on soumettait l'artiste au projet. C'était obligatoire, ça. Et par ailleurs, sur la manière dont se déployait la résidence, eh bien, ça consistait à dire qu'une résidence consistait à faire d'abord un projet et ensuite à exécuter ce projet. Alors, vous voyez en quel point c'est complètement contradictoire avec l'idée d'atelier, c'est-à-dire l'idée de lieu de travail pour l'artiste, n'est-ce pas ?
Puisque précisément le lieu de l'atelier, c'est le lieu du risque, c'est le lieu du tâtonnement. N'est-ce pas ? C'est là qu'il s'autorise, l'artiste, à revenir, à gâcher, à hésiter. Donc cette histoire de projet, c'était absolument... Donc nous avons réussi à convaincre, mais ça a bien duré 2 ans avant que nos interlocuteurs cessent de nous dire « bon, quel est le projet ?» Et ça, maintenant, c'est, pour ce qui nous concerne, en tous les cas, tout à fait rentré dans les mœurs. Plus personne ne nous demande de faire de projet. La troisième chose qui était extrêmement conflictuelle, c'était les professeurs d'art plastique eux-mêmes. La plupart des professeurs, je pense qu'ici, peut-être certains sont, j'ai repéré peut-être certains qui devaient être professeurs d'art plastique à des vibrations dans certains propos que j'ai dit tout à l'heure, savent que la plupart des professeurs d'art plastique sont eux-mêmes artistes. Et il s'agit là souvent pour eux d'un choix qui est un choix, en fait, économique. Enfin, c'est très, très rapide ce que je dis, hein. C'est bien sûr... par exemple, les professeurs d'art plastique qui sont aussi des historiens, qui sont plutôt des historiens d'art que des plasticiens eux-mêmes, sont à, on peut les compter. Pareil, les inspecteurs, j'en connais, mais c'est très très peu nombreux. Cela dit, l'avant-dernier inspecteur général, c'était sa particularité. Mais donc, ce sont des plasticiens. Et à l'époque, il y avait une revendication extrêmement forte des professeurs d'art plastique qui étaient d'être reconnus comme artistes. Au point que d'ailleurs une association existait et là-dessus il y a eu des moments absolument épiques de combat, les professeurs d'art plastique disant mais nous ne voyons vraiment pas pourquoi, nous ne pouvons pas être bénéficiaires parce que de ces bourses, car il s'agissait premièrement d'être accueillis dans l'école sans aucune contrainte d'horaire, etc. Et deuxièmement, de toucher une bourse. Donc, c'était absolument incompréhensible, n'est-ce pas, pour les professeurs d'art plastique. Nous qui sommes, qui assurons la continuité, qui sommes soumis aux vagues d'élèves année après année, etc., pourquoi à un moment nous ne pourrions pas nous-mêmes avoir une période sabbatique dans notre établissement ou dans un autre et être reconnu pour cette deuxième part de notre vie qui est celle en fait à laquelle nous tenons le plus et qui est cette part artistique. Donc il y avait là à la fois un sentiment de concurrence et d'injustice et il va y avoir une véritable bataille rangée qui va durer des années, où les professeurs vont revendiquer d'être les artistes résidents. Et ceci va, peu à peu se résoudre, alors d'abord avec l'institution, et en particulier l'inspection des arts plastiques, avec lesquels on va s'entendre sur le fait que on ne peut pas jouer sur deux casquettes à la fois. Ceci aurait été tout à fait compréhensible du côté des artistes, mais tout à fait incompréhensible du côté des élèves. Il n'était pas pensable que le même ou la même soit à certaines heures le prof et à certaines heures l'artiste en résidence. C'était totalement... On se compliquait beaucoup la question et peu à peu... les choses ont été comprises et ont pu ainsi être admises. Alors, après nombre d'empoignades sur tous ces sujets que je viens d'évoquer, avec les artistes d'abord qui ne voulaient pas y aller, avec les établissements eux-mêmes, les chefs d'établissement, qui ne comprenaient pas ce que pouvaient venir faire chez eux des artistes. Puis à la suite de débats, d'explications, je me rappelle avoir été convoquée à l'Association des professeurs d'art plastique, enfin, vous voyez, on a peu à peu établir, expliquer, modifier parfois les dispositifs, n'est-ce pas, puisqu'on était nous-mêmes très désireux d'écouter tout cela, de faire au mieux, de ne pas traiter la question comme un sorte de coup de force qui alors aurait conduit les établissements puis l'éducation nationale à se refermer comme une huître, n'est-ce pas. On sait à quel point elle a cette capacité, hein, qui en général se traduit d'ailleurs par du silence. Donc, on a vraiment avancé de conserve avec l'inspection, avec les professeurs, et peu à peu, eh bien, plusieurs choses ont conduit à ce que les choses rentrent dans les mœurs. D'une part, le fait que finalement il y avait une certaine harmonie, on découvrait les œuvres, vous avez compris qu'il n'y avait pas de commande, il s'agissait de périodes sabbatiques. Mais la proposition pour un artiste d'être déplacé de son lieu habituel, de trouver pendant une période suffisamment longue un lieu de travail et dans les lycées professionnels et techniques, des matériaux, des gens qui pouvaient leur montrer comment se servir de telle ou telle machine. Dans la mesure où on respectait ce lieu qui était l'atelier, bien en fait les œuvres qui étaient construites étaient extrêmement intéressantes. Elles étaient pour les artistes des moments de ressourcement extrêmement puissants. Et dans les résidences que nous avons menées, finalement à peu près 150 résidences d'artistes, on trouve un certain nombre d'artistes pour lesquels c'est des moments fondateurs de leur propre travail. Donc ça se voyait. Et puis il y a eu évidemment les élèves. Les élèves notamment des lycées techniques et professionnels qui travaillaient donc à côté de l'artiste, l'artiste se servant des mêmes machines qu'eux. Tout à coup ils découvraient que l'artiste qui connaissait rien à rien à leur machine, apprenaient très vite les modalités de fonctionnement. Et donc, peu à peu, étaient placés, pour ce qui concerne les élèves, ailleurs. Ils comprenaient que cet apprentissage, il requérait autre chose que simplement d'apprendre petit à petit, mais d'avoir eux-mêmes un projet. Que ça les poussait, ce qui était le cas. Donc là, je ne réutilise pas ce terme, c'est pas la même chose, c'était le projet artistique, ce qu'on ne demandait d'ailleurs pas à l'artiste, on ne lui demandait pas ce qu'il allait faire. Mais un artiste a un projet, pas un projet déterminé, défini, mais enfin il est dans une démarche, il a une démarche, n'est-ce pas? Eh bien, les élèves découvraient ça, qu'il ne s'agissait pas simplement d'apprentissage de savoir-faire, mais qu'il s'agissait d'être portés par l'idée, une vision de ce qu'ils allaient devenir, de ce qu'ils voulaient faire, etc., etc., et qu'il y avait là des bénéfices éducatifs, pédagogiques, extrêmement importants. Et donc cela a évidemment conduit à ce qu'on puisse peu à peu rentrer dans des phases plus sereines, ce qui n'empêchait pas toutes les difficultés pour mener ces résidences. Alors ensuite, on a... peu à peu, les choses se sont développées hors Île-de-France. En 87-88, c'est en Basse-Normandie que nous développons d'autres résidences entre les artistes. Puis, la Bretagne fait partie des premières régions. Enfin, je ne devrais pas dire région, parce que ce n'est pas du tout la région, c'est la DRAC, avec Françoise Châtel. Je prononce son nom à dessein parce qu'un certain nombre d'entre vous doivent la connaître, qui s'empare de ce type de dispositif et qui le développe, qui fait quelques résidences d'artistes. Et puis ensuite, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, en Aquitaine, c'est conduit par le cap de l'époque, conseiller pour les arts plastiques, qui était Jean-Louis Conant, que je cite ici aussi parce que c'est un Breton qui ensuite est revenu après tout un périple, quelque temps en Bretagne. Puis la Picardie, l'Alsace. Donc peu à peu, on a eu cette extension. Et puis en parallèle, on avait, sur les autres disciplines, au fond, ce qui a suivi très très vite les résidences entre les artistes, mais sur le même modèle, et d'ailleurs on m'a demandé de m'en occuper dans un premier temps, ce que j'ai refusé de faire, ce sont des résidences d'écrivains avec le rectorat de Créteil. Ça, on ne le sait pas toujours. Mais dès 86, donc nous commençons à Plastique 85-86, on développe quelques résidences avec des écrivains au rectorat de Créteil. Et puis, par ailleurs, nous développons un grand colloque, et dans ce colloque viennent des gens de théâtre qui, peu à peu, vont puiser dans les réflexions et vont, peu à peu, développer de leur côté des résidences d'artistes avec le théâtre, et puis ensuite il y aura la musique, la danse, etc., etc. Mais sur la base de cette réflexion qui... Enfin, sur la base d'une tentative qui assimilait cela à des moments de création, ce n'était pas au démarrage systématiquement des commandes pour les gens de théâtre. Alors ensuite, il s'est posé la question de la démultiplication des acteurs, n'est-ce pas ? C'est-à-dire comment, puisque nous étions, nous, dans la région parisienne, bon, nous développions dans de nombreuses régions, ça c'était possible, mais il fallait aussi, et c'était le projet, que d'autres acteurs se saisissent de ce type de dispositif et, pas forcément liés à savoir au présent, puissent à leur tour développer des résidences d'artistes. Et là, pour parvenir à cela, il y a eu trois phases qui ont été aussi, qui nous ont beaucoup appris sur la question justement de la transmission, qui est une question vive, et en particulier... comment on fait pour, lorsqu'on a développé un programme qui nous paraît pertinent, intéressant, comment on fait pour que d'autres font le transformer en programme modélisable ? Qui est une question dans l'éducation nationale très fréquente. Je ne sais pas si vous vous la posez de temps en temps aussi, mais on entend très souvent ça dans les colloques avec les profs. La première idée, en fait, c'était celle de la formation. Comme tout le monde, on est passé par... toutes ces étapes, au fond. Et ceci était prévu dès l'origine. C'est-à-dire que dans la fameuse convention de développement culturel, était prévu déjà qu'un stage expérimental mobilisant l'ensemble du personnel d'un lycée professionnel à Saint-Denis, ce qui était un des lieux d'accueil des premières résidences d'artistes, et pouvant ensuite accompagner un artiste en résidence, était déjà prévu. Alors nous avons fait cette formation, nous avons tenté de développer ces formations, mais nous nous sommes rendus compte que nous agissions ainsi sur l'accueil de la résidence, mais pas sur le lancement de la résidence, qui était un autre problème. Que donc, au fond, ça servait la qualité de résidence déjà lancée, mais ça ne servait pas l'extension dans ce type de dispositif dans différents lieux et dans toute la France. À ce moment-là, nous nous sommes entendus et nous avons été chargés d'une mission par le délégué aux enseignements et aux formations du ministère de la Culture, c'est-à-dire la personne qui avait pris la suite de... Vallon, qui était Michel Tourlière à l'époque, en décembre 86, il fallait absolument une autonomie. Il fallait à la fois que nous soyons proches, mais en même temps distants, que chaque acteur puisse développer son programme. Et là, on s'est rendu compte que ceci non plus n'était pas la bonne solution. Ça, on s'en est rendu compte très très concrètement. C'est-à-dire que les résidences, dans ce cas-là, qui étaient menées par d'autres personnes qui n'étaient pas de l'équipe de savoir au présent, portaient l'imprimatur entre les artistes. Et en fait, à la suite de petits décrochements très subtils et invisibles, aboutissaient, lorsque l'on regardait la résidence en fin de course, exactement à ce que nous ne voulions pas et ce pour lequel nous nous étions battus depuis le début, c'est-à-dire... un artiste transformé en animateur, des œuvres réduite du point de vue esthétique parce qu'il y avait une trop étroite appel à une finalisation par rapport à un lieu. C'est-à-dire qu'au fond, le lieu faisait l'objet du thème du travail de l'artiste et non pas du tout d'un lieu de ressourcement et d'inspiration autre. Je ne sais pas si vous voyez, là, je suis en train de parler en même temps de quelque chose qui me semble se passer ici. Et donc, nous ne voulions surtout pas porter cette responsabilité-là. Nous ne voulions pas du tout que entrée d'artiste soit liée à ce type. Alors que les personnes qui le développaient étaient des personnes de qualité. Ce n'était pas du tout des personnes, des mauvais. Enfin, ce n'était pas du tout des gens qui voyaient les choses. Donc, il y avait là un petit mécanisme qui était extrêmement subtil et très difficile. En tous les cas, nous, c'était très clair. On ne voulait pas être liés à cela. Et donc, là, nous ne nous sommes pas dit « ils sont mauvais », nous nous sommes dit « c'est nous, notre proposition qui est mauvaise et pas adaptée ». Et donc, on a encore une troisième fois changé notre fusil d'épaule et nous nous sommes dit « la meilleure des solutions, c'est de faire un grand colloque, ce que nous avons fait pendant 5 ans, au Sénat, de 1988 à 1992, qui s'est appelé « École milieu artistique », et qui en fait invitait de toute la France et des territoires d'outre-mer, parce que venaient de La Réunion, je me rappelle certains, venaient des Antilles, etc., pour au fond s'abreuver, je dirais, à la fois des expériences, des constats que nous pouvions faire, du témoignage de ceux qui avaient mené, mais aussi inscrire cela, c'est-à-dire la question des résidences d'artistes, dans des perspectives évolutives au fur et à mesure des années, avec la question de l'Europe qui surgissait. C'est-à-dire qu'on ancrait cela avec des questions qui étaient au cœur de l'évolution de notre société. Et à partir de là, eh bien en effet, un certain nombre d'acteurs se sont saisis. C'est là que des gens de théâtre également étaient présents, des politiques aussi étaient présents, des gens d'entreprise pour venir témoigner. Et chacun, au fond, faisait son marché, je dirais, et ensuite retournait chez lui et développait ses résidences, qui étaient chacun comme il le pouvait. Nous, ce n'était pas nécessairement des résidences entre les artistes qui nous convenaient, et c'est ainsi que se sont déployées dans toute la France ces résidences d'artistes. Alors au fond, j'en arrive à la fin là, de mon intervention. De quoi s'agit-il? Après tant d'années, tant d'expériences, et comment nous avons progressé dans cette... Parce que nous-mêmes progressions au radar. Maintenant, je peux très bien... Maintenant, je suis en mesure, par exemple, si vous me racontez ce que vous faites, je sais à peu près ce que ça va donner. Je connais bien les logiques, ce qui est au cœur, etc. Mais à l'époque, c'était loin d'être cela, n'est-ce pas? Ce qui nous tenait, c'est un certain nombre de points sur lesquels nous ne voulions pas déroger. Nous ne voulions pas instrumentaliser les artistes. Nous voulions qu'une résidence d'artiste, ça serve de façon intense et comme s'il ne s'agissait que de cela, l'artiste et sa démarche. L'art, donc, et l'évolution et le développement de l'art. Et nous voulions concomitamment et avec la même intensité, comme si, là aussi, c'était absolument la même question, la seule question, servir les structures pour leur mission. Pour nous, il n'était pas question qu'un établissement scolaire et même une entreprise agissent comme des mécènes dans le cadre des résidences d'artistes. Il s'agissait de servir la mission éducative et pédagogique. À notre échelle, bien sûr, on ne pouvait absolument pas se substituer à tous ces talents dans les établissements scolaires, mais il s'agissait, avec autant d'intensité, de considérer que ça devait servir cela. Dans les entreprises, ce début, cette période initiale du chômage était absolument tragique, dramatique. On s'y est très très mal habitué, bien sûr, parce que c'est absolument, ça reste tragique, mais à l'époque c'était un, c'était une chose de terrible. On découvrait que ça pouvait atteindre ces niveaux. Donc là aussi il y avait une mission qui était extrêmement importante. Et donc nous allions au radar, et à tout moment nous inventions des modalités qui permettaient de poser les bases de quelque chose qui pouvait se déployer dans ce sens que nous souhaitions développer. Parmi les questions qui se posaient, dont certaines étaient très pratiques, mais que nous n'envisagions jamais seulement du point de vue pratique, très vite on avait compris que le symbolique, en fait, était bien sûr premier. Donc je voudrais que vous entendiez là les questions qu'on se posait aussi sur ces deux niveaux. Comment permettre à un artiste, par exemple, de concrètement, hein, de travailler librement dans un établissement scolaire ou une entreprise, y compris le week-end et pendant les vacances scolaires? Car si ce n'était pas le cas, on soumettait l'artiste à des horaires. Comment traiter les risques de l'entreprise? Les risques pour l'artiste, mais les risques aussi pour des élèves qui étaient sur une machine à côté de l'artiste, et il pouvait y avoir quelque chose qui se passait. Alors que, parce que vous savez que les risques sont pris en compte lorsque les personnes qui sont dans un établissement scolaire sont personnelles de l'Éducation nationale. Mais c'est tout. Comment résoudre les problèmes d'assurance, qui est un problème, vous parliez d'espace public comme étant une question importante. En effet, comment résoudre les problèmes d'assurance quand l'État est son propre assureur et qu'un établissement scolaire n'a pas? Alors maintenant, peu à peu, ils se sont mis à avoir des petits compléments avec la MAIF, mais à l'époque, il n'y avait pas d'assurance complémentaire. Quel statut pour l'artiste? Voilà une question très très compliquée. Quel statut pour l'artiste? Est-ce que on le soumet à ce qu'on appelle la relation de dépendance? Relation de dépendance, vous savez, c'est la formule consacrée, c'est ce qui lie une personne et une autre, et une structure, et qui conduit à pouvoir verser un salaire. Donc, ou, par exemple, financer des interventions, ce qui est la même chose. À ce moment-là, c'est un projet, une visée, et il y a une relation, d'une certaine manière, de dépendance. Nous n'en voulions pas. Ce point était fondamental. Et la manière dont nous transmettions cet argent était extrêmement important pour induire la suite de l'histoire. C'était dès le démarrage qu'il fallait penser cela. Voilà quelques-unes des questions. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Nous sommes restés sur notre ligne et nous n'avons pas dérogé à l'idée qu'il s'agissait de proposer une année sabbatique. Je crois que le premier point, c'est de ne pas penser une résidence d'artiste comme une collaboration. Ce n'est en aucun cas une collaboration entre un artiste et une collectivité, quelle qu'elle soit. La manière donc de résoudre, je dirais d'une certaine manière, le paradoxe de cette situation contradictoire intrinsèquement, c'est de le penser non pas comme une collaboration, mais comme une histoire double qui conduit pour l'acteur culturel à exercer ses talents schizophréniques. Il s'agit de ménager d'abord une présence, celle de l'artiste, de sa démarche, de son œuvre, au sein d'une structure d'accueil. Comme s'il ne s'agissait que de cela. Pendant une durée significative, car on ne peut imaginer, penser développement d'un travail dans une période ridiculement courte. C'est pour ça que, pour ce qui me concerne, j'aime bien cette idée de période sabbatique. L'artiste, cette présence étant aménagée, prévue, on a au sein même l'atelier, l'atelier de l'artiste, qui devient alors le signe de cette présence, le lieu symbolique, à la fois intégré à la collectivité et en même temps autre, où l'activité au sein même de cet atelier obéit à son propre rythme et relève d'exigences différentes. D'un autre côté, à côté du fait de ménager cette possibilité d'un temps sabbatique, c'est la deuxième partie de l'histoire, comme si il n'y avait lieu que de faire cela. Il s'agit de penser la manière dont le public, la structure, va être concerné par cette présence. Et là, il s'agit de faire un travail avec l'identification de relais, jamais l'artiste, n'est-ce pas ? La question, ce n'est pas de faire faire ça à l'artiste, c'est de faire ça. Et de créer les conditions d'une cohabitation, et là, d'avoir un travail de médiation, comme si on était dans un autre cadre, qui tire tous les fils possibles en liaison avec cet artiste, sa démarche, ses œuvres, etc., etc. Alors en imaginant, pour commencer à partir d'éléments extrêmement simples, comment on va faire pour dire qu'il y a un artiste sans forcément lui faire faire des gesticulations infinies. Donc, son dossier, quel dossier, comment le dossier, qui va préparer ou amplifier un dossier ? On peut charger certains. Où va-t-on le mettre ? Bref, d'agir dans une résonance et par là même de déployer les capacités qu'a l'acteur culturel d'être, de devenir un critique d'art, de devenir à l'intérieur et par rapport à l'œuvre qui se déploie, qui est déployée, qui est la démarche, de pouvoir donner du sens à tout cela et de pouvoir imaginer des dispositif en résonance pour que tout ça marque cette présence. Et par ailleurs, de façon souterraine, sous-jacente, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, il se passe que l'artiste, ce que je viens de vous dire, c'est la personne artiste avec ici écrit artiste. Mais vous avez aussi la personne. Eh bien, la personne, l'artiste, mais qui est aussi une personne, eh bien, elle va vivre avec les gens. Elle va aller déjeuner avec ces gens. Et donc, il va y avoir ainsi une espèce de trame dont il est très important d'identifier les deux aspects. D'un côté, l'artiste. Or, qu'est-ce qui prévaut dans cette affirmation ? Eh bien, c'est le dossier. Il est fondamental de ne jamais présenter une personne, mais un artiste. Donc la personne, mais avec son dossier. Ce qui fait sens là, c'est bien qu'il y ait un dossier, n'est-ce pas ? Et puis après, de ménager avec souplesse, et selon alors là les initiatives, qui ne sont pas du tout forcément celles de l'acteur culturel, dans la vie courante, de faire en sorte que... Enfin, pas de faire en sorte, les choses se produisent, en fait. Alors, en fait, cette double mission, ces deux missions différentes, qui, finalement, lorsqu'elles sont pensées comme cela, requièrent énormément d'exigences, elles requièrent également beaucoup de précision. Car, Alors ça, c'est vraiment ce que j'ai appris de ces expériences. Le sens circule à tous les niveaux. C'est peut-être la particularité des résidences d'artistes. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on installe une situation comme celle-là, en fait, l'acteur culturel introduit quelque chose qu'il ne va plus maîtriser qu'à la marge. Et donc, tout ce qui va être instillé dans la situation va ensuite se déployer sans que l'on puisse plus l'arrêter. Et donc, il est tout à fait fondamental de penser tous les niveaux de sens de tout ce qu'on instille au démarrage, et là, je veux parler de la manière de financer l'artiste, de la manière de l'annoncer, de l'atelier, comment il est, de ce qu'on indique, etc., etc., etc. Tout geste, toute décision, toute promesse de l'acteur culturel, c'est cela qui imprime en fait l'histoire de chaque résidence, qui va ensuite être habité par chaque personne, qui va le faire à sa manière, mais dont, à la sortie, ce qui est recherché, n'est-ce pas ? Et ça, c'est la responsabilité de l'acteur culturel. Il importe que l'on puisse en effet constater que des œuvres importantes, intéressantes, aient pu être, peut-être, puisqu'il n'y a pas de commande, générées, créées, et que de l'autre côté, on ait un autre rapport à l'art, une gourmandise, une curiosité, et voire une modification, ce qui a été très souvent le cas dans notre cas, mais je pense pour beaucoup d'entre vous aussi, des structures elles-mêmes qui ont accueilli la résidence d'artiste. Voilà. J'ai été trop longue, en fait.
L'artiste n'exerce pas sa pratique dans le cadre d'un atelier. Donc, c'est un petit peu la question, et ça me renvoie aussi à des situations auxquelles nous avons été confrontés, aussi bien dans le sorte de fantasme associé à cette idée de l'atelier, d'une présence physique, qui définirait un certain type de pratique artistique.
Voilà. C'est très juste, c'est une très très bonne question. En fait, ce que nous faisions, puisque un certain nombre d'artistes étaient des artistes conceptuels et en effet ne travaillaient pas comme traditionnellement on parlait de l'atelier, ce qui nous semble important, c'est au fond qu'il y ait un espace qui peut être tout à fait réduit, extrêmement petit, mais qui est un lieu d'une manière ou d'une autre d'identification d'un travail. C'est-à-dire, ça peut très bien ne absolument pas être un travail qui est celui qui façonne ou qui même met en place physiquement les œuvres. Ça peut être un espace de réflexion pour l'artiste. Et il nous est arrivé souvent, en effet, dans des entreprises, soit dans des établissements scolaires, que ce qu'on appelait l'atelier, en réalité, soit un tout petit espace dans lequel l'artiste met ses affaires et va travailler ailleurs. Mais ce que je peux dire, c'est que chaque fois qu'il n'y a pas eu au moins ce petit espace symbolique, ce signe d'une présence autre, avec quelque chose qui coupait avec le reste de l'espace, eh bien, en général, ça a été des résidences qui n'avaient pas l'envergure que nous espérions. Ça, nous sommes laissés avoir plusieurs fois, quelquefois par des artistes qui disaient « Mais enfin, j'ai pas besoin d'atelier, que c'est que ce truc, c'est complètement ridicule, etc. » Bon, je me suis... J'ai fait 2-3 expériences comme ça et après j'ai complètement arrêté parce que, y compris, encore une fois, lorsque c'est un tout petit espace, mais au moins que symboliquement, on puisse voir l'incongru. Il y a quelque chose qui est important.
Non, c'est juste une petite précision. Est-ce que vous avez parlé à un moment de dossier? Qu'est-ce que vous entendez par dossier? Dossier d'artiste?
Oui, oui. Dossier d'artiste.
D'accord.
Ça, le dossier de l'artiste, c'est vraiment...
Il est arrivé là dans votre intervention de manière un peu rapide. Vous parlez, vous dites, je ne présente pas l'artiste, mais le dossier de l'artiste, c'est-à-dire que la démarche, tout ce qu'il a fait avant, c'est quoi que vous entendez par là?
Non, moi, si vous voulez, un dossier de l'artiste, bon, chaque artiste fait son dossier. Vous savez l'importance pour un artiste de son dossier, c'est-à-dire qu'il met à la fois sa biographie, mais aussi... des éléments pour identifier des pièces. Alors ça peut prendre des formes diverses, ça peut être sur papier, sur DVD, sur machin, etc., etc. Mais c'est un élément, si vous voulez, qui là aussi a une forte charge du point de vue symbolique, parce que c'est ça qui dit qu'il est artiste, n'est-ce pas? Donc lorsque je dis qu'il ne faut pas présenter l'artiste, mais le dossier de l'artiste, enfin j'exagère, c'est-à-dire que, en fait, bien sûr, c'est l'artiste, la personne artiste est présente. Mais là aussi, il m'est arrivé de faire l'erreur de ne pas avoir le dossier. Et à ce moment-là, ce qui était accueilli, ce n'était pas un artiste, c'était une personne qui était un artiste. Et à ce moment-là, il était insupportable, d'autant plus dans des espaces contraignants, comme une entreprise ou un établissement scolaire, que cette personne, du coup, qui était absolument comparable à n'importe quelle autre personne du lieu... puisse être délesté des contraintes horaires, de projets, d'objectifs finalisés, etc., etc. Donc, ce qui est extrêmement important, ça c'était vraiment très, très clair. Et donc, les conflits, enfin, En fait, quand on monte mal une résidence d'artiste, en général, ça génère des frustrations et des conflits très, très... Alors, ça peut être sourd ou pas, mais c'est en général assez... Et l'une des modalités importantes, c'est qu'en effet, au démarrage, on vienne avec la personne, mais que la personne soit avec le dossier qui n'est pas forcément présenté par lui, par l'artiste. Comme ça, symboliquement, on met sur la table... Enfin, entendez-moi tout ça au niveau symbolique. On met sur la table qu'on est bien là, en présence d'un artiste. Et que donc là, on va repenser... On est en capacité de repenser l'implication à l'intérieur de la structure. Et par ailleurs, bien sûr, il y a la personne. Alors la personne qui séduit ou ne séduit pas, etc., etc. Mais voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà. On arrête.
C'est bon. Bah ça y est, c'est lancé. Par contre, peut-être que je dois... J'ai le raccord.
Oui. C'est vissé sur cette arme-là. Ah.